Les proverbes et les psaumes, par exemple, sont deux livres de la Bible que beaucoup de personnes apprécient parce que ce sont des livres qu'on appelle des livres poétiques. Et c'est vrai que c'est assez facile à lire, etc. Les proverbes qui plus est, il y en a un par jour, 31, comme les jours de la semaine. Donc c'est vrai que les psaumes et les proverbes reviennent souvent quand on demande quel est le passage préféré, enfin un livre préféré de la Bible de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un aurait un autre livre de la Bible qu'il préfère ? Jean ? Une raison particulière ? Ou parce que tu aimes le style ? Ou parce que tu es marié à Jean ? C'est vrai ? La profondeur du texte. Ok, très bien. Pardon ? T'en as pas ? Alors, comme on l'a dit, certaines personnes aiment particulièrement les psaumes et les proverbes qui font partie des livres poétiques. Certains préféreront peut-être le Nouveau Testament à l'Ancien Testament, peut-être un peu plus actuel, plus facile à lire, plus concret. Mais même si chacun a sa préférence, je pense qu'une lecture de la Bible dans son ensemble reste à privilégier. C'est ce qui nous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. D'ailleurs, on dit toujours aussi que c'est vrai que moi, quand j'ai entrepris la lecture de la Bible, quand on commence la Bible, on ne comprend pas tout. Mais c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas ça qui doit nous dissuader. Petit à petit, il y a des liens qui se créent, les histoires se relient, etc. Et on fait des connexions et on apprend à connaître la Bible et du coup à connaître la profondeur de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Eh bien écoutez, s'il y a un livre que j'apprécie particulièrement, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Alors c'est le premier livre que j'ai lu en entier dans la Bible quand j'ai commencé la lecture de la Bible. Alors pourquoi l'Ecclésiaste ? Je ne sais pas trop pourquoi j'ai commencé par là, mais peut-être que, en tout cas, j'apprécie l'Ecclésiaste pour ses nombreux questionnements. Étant moi-même quelqu'un qui se pose naturellement beaucoup de questions, peut-être trop selon les dires de ma femme, je crois que c'est pour ça que j'aime l'Ecclésiaste. J'ai dénombré plus de 30 questions que pose l'Ecclésiaste ouvertement. Et même si le livre de l'Ecclésiaste n'est pas votre préféré, je suis certain que vous êtes capable de me rappeler certaines paroles de ce livre, puisque il y a notamment dans ce livre des expressions qui reviennent régulièrement. Est-ce que, quand je vous parle de l'Ecclésiaste, quelque chose vous revient à l'esprit ? Voilà, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Tout n'est que fumée. Il y a aussi d'autres choses qui est répétée souvent, c'est « il n'y a rien de nouveau sous le... » Merci. Et c'est également de ce livre qu'on tire de nombreuses expressions qui sont devenues communes dans la langue française, comme « il y a un temps pour tout »,« la corde à trois fils ne seront pas facilement »,« deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre se relève ». C'est des expressions que l'on utilise assez régulièrement. Donc l'Ecclésiaste, comme je vous l'ai dit, il relève un bon nombre de réflexions et d'enseignements sur la vie et sur son sens. Donc on va reprendre une partie de ces choses ensemble, mais on ne verra pas tout, parce que c'est un livre qui est riche et donc qui a plein de réflexions. Donc, l'Ecclésiaste, comme on l'a vu, il fait partie, avec les Proverbes et Job, des trois livres de la Bible qu'on appelle les livres de sagesse. Donc, ces trois livres, ils parlent et ils traitent de mêmes questions, des mêmes types de questions. Dans quel genre de monde vivons-nous ? Comment bien vivre dans ce monde ? En gros, comment faire pour mener une belle vie ? Chacun de ces livres aborde ces questions sous un angle unique, et c'est pourquoi il serait intéressant de les comprendre tous afin de capter la vision d'ensemble de ce qu'est une belle vie selon la Bible. Je n'ai malheureusement pas suffisamment médité ces trois livres pour vous en fournir et retranscrire l'ensemble ce matin, et puis résumer trois livres en moins d'une heure, je pense que c'est impossible. Donc, on aura peut-être l'occasion de voir ces deux autres livres dans de prochains partages. Mais ce matin, j'ai donc voulu privilégier l'Ecclésiaste, et c'est autour de ce livre que j'avais à cœur de partager avec vous. Donc, le but de l'Ecclésiaste, c'est d'épargner aux générations futures l'amertume de découvrir par leur propre expérience que sans Dieu, la vie n'a aucun sens. En effet, dès le début du livre de l'Ecclésiaste, il explique sa démarche. Il veut nous démontrer quelque chose. Et il va, au travers des expériences qu'il va vivre, chercher à donner un sens à sa vie, et par la même occasion, tenter de goûter au bonheur. On le lit dans Ecclésiaste 1, au verset 12 et 14. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Et chapitre 9, verset 25. J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. L'homme d'aujourd'hui en est probablement au même point que l'Ecclésiaste. Il est à la recherche de plaisir à tous les niveaux et par n'importe quel moyen. Et c'est ça sa priorité, le bonheur, le plaisir. C'est ainsi qu'il donne un sens à sa vie. Le plaisir devient alors comme une carotte qui s'éloigne au fur et à mesure que l'on court après. C'est le constat que va faire l'Ecclésiaste dans les 7 premiers chapitres. Ecclésiaste chapitre 2, verset 1 à 11. « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaie la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin, tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vois ce qui est bon pour les humains de faire sous le soleil tout au long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils me réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Donc l'Ecclésiaste nous décrit ici tout ce en quoi il a cherché le bonheur. Il l'a cherché dans la science, dans la sagesse, dans la philosophie, dans les joies, les plaisirs, le vin, le travail, l'architecture, les possessions et le luxe. Ensuite, il s'est tourné vers différentes philosophies comme le matérialisme, la religiosité et même certains codes moraux. Il a trouvé que tout cela n'a pas de sens et n'est qu'un divertissement éphémère, tout n'est que fumée. Malgré tout ce qu'il a pu faire ou voir, son cœur n'était pas rassasié. Il s'aperçoit alors que tout n'est que hevel, comme nous l'avons vu, tout n'est que futilité et inconsistance. Qu'est-ce qui, dans la vie, représente pour vous un modèle de réussite? L'autre soir, j'étais avec un ami et on discutait de deux personnes et il me disait « Tu vois, telle personne, pour moi, représente un modèle de réussite. » Et pour lui, la réussite, c'était avoir réussi en bas de l'échelle, à avoir un bon travail qui nous permette de gagner une bonne somme d'argent et ainsi se faire plaisir avec des choses matérielles comme une belle voiture, une belle maison et puis avoir un beau compte en banque. Et puis en discutant, on s'est rendu compte aussi que du coup, eh bien cette personne qu'il avait idéalisée, en fait, elle passait par des difficultés dans sa vie, à cause ou pas de l'argent. Mais en tout cas, l'argent ne faisait pas son bonheur puisqu'elle avait été cambriolée, puisque ses amis l'avaient un peu trompée, etc., etc. Et donc l'Ecclésiaste nous parle d'une réalité similaire. Le sort de tous les hommes est le même. Le sort du juste et du méchant est le même. Le riche et le pauvre ont un même sort. Et il leur arrive à tous deux des difficultés. L'un n'est pas plus chanceux que l'autre, et tous deux finiront par mourir. Au vu de cette perspective, on ne peut définir de généralité. L'Ecclésiaste confirme que si cela arrive de la sorte, c'est pour que l'homme ne puisse anticiper ce qui se passera, ce qui arrivera, et qu'il reste du coup dépendant de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 14. Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. Bien souvent, les gens ne comprennent pas qu'il puisse arriver de mauvaises choses à celui qui croit. Et on entend souvent dire, tu vois, c'est ça qui me fait dire qu'il n'y a pas de bon Dieu. Alors, pourquoi en vouloir à Dieu dans les mauvaises choses et ne pas le remercier dans les bonnes ? Cela ne revient à notre histoire de la carotte. Si croire en Dieu accordait l'assurance d'être béni, comment pourrait-on savoir si l'homme croit par conviction avec le cœur ou s'il croit pour la récompense qui est attachée ? Nous, il serait impossible de le savoir, mais à Dieu, bien sûr, personne ne peut le duper. Tout homme cherche à être heureux et à bien vivre sur la terre. Mais pour être heureux, pleinement heureux, il faut encore être capable de comprendre ce que sont les besoins de l'homme, ses réels besoins pour pouvoir y répondre. Si on se fie à ce que la société nous encourage à faire, les besoins de l'homme sont matériels. Il faut des richesses, il faut la réussite sociale, etc. Et c'est ça qui fait qu'un homme réussit sa vie. L'introduction de ma Bible d'études au livre de l'Ecclésiaste commençait ainsi. Le petit lapin en chocolat repose au fond du panier, entouré de papier vert représentant l'herbe. En ce matin de Pâques, les yeux grands ouverts, le petit garçon le prend délicatement et croque l'une de ses longues oreilles. Comme le goût sucré se dissout trop rapidement, l'enfant examine son lapin. L'intérieur est vide. Ecclésiaste 12, verset 30, « Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. » Si on court après des choses vides, nous ne serons jamais rassasiés. L'Ecclésiaste nous encourage donc à rechercher la sagesse afin de satisfaire nos désirs. Mais il ne parle pas ici de la sagesse humaine, de la connaissance ou de l'éducation. Il parle de la sagesse qui vient de Dieu. Et pour en bénéficier, il faut d'abord le connaître et le respecter. Pour comprendre l'Ecclésiaste, il faut comprendre ce qu'est l'essentiel. Alors, si je décortique le mot, j'aime faire ça, parce qu'à chaque fois, je pense à mon oncle Philippe. Si je décortique le mot, il y a « essentiel ». Donc, j'entends le mot « essence ». L'essence d'une chose, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. C'est l'ensemble des caractères constitutifs et invariables de cette chose. C'est le fond de l'être, la nature des choses. L'essence, c'est aussi ce qui fait marcher un moteur à explosion. Pour faire tourner la voiture, il faut mettre de l'essence dans la voiture, et bien sûr pas n'importe laquelle. Il faut l'essence qui correspond au bon moteur de la voiture. On ne fait pas tourner un moteur diesel avec du sans-plomb. Et il nous faut ainsi trouver notre essence afin de pouvoir avancer. Une fois l'essence mise dans la voiture, il faut encore connaître le fonctionnement du bolide et connaître le code de la route, parce qu'il n'est pas question de marcher de rouler à contresens. Sinon, c'est le crash assuré. Une fois l'essence... Voilà. Donc, il me reste un mot pour finir le mot essentiel. C'est le mot ciel. L'essence nous mène vers le ciel. L'essentiel. Voilà ce à quoi nous exhorte l'Ecclésiaste. À ne pas courir après de vaines choses, mais à rechercher l'essentiel. Et pour connaître l'essentiel, il faut connaître l'homme. Et pour connaître l'homme, il faut connaître la parole de Dieu et le Créateur, celui qui a construit, celui qui a fabriqué l'homme. Cependant, ce qui est troublant avec l'Ecclésiaste, c'est qu'à l'écouter, on se demande s'il y a quelque chose de bon pour l'homme sur la terre. N'y a-t-il aucun avantage à retirer pour l'homme de ce qu'il fait sous le soleil ? Selon l'Ecclésiaste, tout est vanité et pourtant il reconnaît que, Ecclésiaste 2, 24, le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. 3.22, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voie ce qui sera après lui ? Et chapitre 9, versets 9 et 10, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Je pense que c'est la raison pour laquelle il nous faut vivre la vie pleinement. C'est là notre part, et Dieu prend plaisir à ce que nous faisons. Nous le lisons aussi dans Ecclésias 9 au verset 7 qui dit « Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à tout ce que tu fais. » Ça, ça m'a marqué, ça. C'est que Dieu prend déjà plaisir à ce que nous faisons. Le don de Dieu est la jouissance des bonnes choses parmi les plus simples que la vie peut nous offrir. L'amitié, comme on l'a vu, la famille, un bon repas, une belle journée. Et je voudrais partager ici le bon moment que nous avons passé jeudi lors de la sortie pour l'Ascension. C'était un moment vraiment de partage et de convivialité. On avait peur pour le temps et Dieu nous a vraiment bénis parce que à partir de 14h, la pluie s'est arrêtée et on a eu du soleil. On a vraiment eu un temps qui a été clément. Et vraiment, c'était pour moi quelque chose de vraiment sympa de faire cette Ascension. Et ça fait pour moi partie des choses simples de la vie par lesquelles Dieu nous bénit en fait. C'est vraiment des petites choses et je pense que c'est important d'apprendre à apprécier ces petits moments. Des fois, on se culpabilise beaucoup pour certaines choses, etc. Mais ne serait-ce que voir quelqu'un, parler avec cette personne, échanger un repas, échanger un coup de téléphone, partager une belle journée de sport ou d'activité en plein air, c'est des belles choses que le Seigneur nous donne et qu'il nous permet de bénir. Il nous bénit au travers de ces choses. Et Jean nous a d'ailleurs partagé cette idée parce que dans Luc 14, à la fin, quand Jésus part le jour de l'Ascension, quand Jésus quitte ses disciples, qu'est-ce qu'il fait ? Avant de les quitter, il les bénit. Et Jean nous rappelait que du coup, nous sommes sous cette bénédiction, nous aussi. Nous sommes les bénis de l'Éternel. Nous sommes sous les grâces de Dieu et Dieu nous donne ses bénédictions. Alors tout est vanité, mais ça fait partie aussi ça, du livre des promesses. Le livre des promesses dit que justement il y a des promesses qui sont attachées justement à celui qui craint l'Éternel. Et que celui qui craint l'Éternel aura quand même une vie, et qui a de la sagesse, aura une vie meilleure que celui qui ne craint pas l'Éternel. Donc il nous faut donc apprendre à aimer les bons comme les mauvais moments, car Dieu se sert de l'un et l'autre. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a marqué, parce qu'en fait dans la vie on passe tous par des bons et des mauvais moments. Et là l'Ecclésiaste nous dit, les bons et les mauvais moments, c'est Dieu qui les occasionne. Je vais reprendre le verset. Le jour du bonheur soit heureux, et le jour du malheur réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo, il nous faut accepter le « hevel ». Il nous faut accepter la vanité des choses et la vanité de notre vie. Cela consiste à accepter que rien de votre vie n'est sous votre contrôle. Et si vous cherchez à contrôler votre vie, vous allez courir à votre perte. Parce que la vie est à la fois belle, mais elle est mystérieuse et on ne peut pas comprendre tout son essence. Parce que du coup, il n'y a que Dieu qui puisse comprendre. Ça, c'est une chose aussi qu'on voit dans Job, que j'ai anticipé aussi. Mais du coup, Job est transporté par Dieu et donc du coup, Dieu lui fait comprendre qu'il ne peut pas comprendre l'étendue, la grandeur de Dieu. Et donc, voilà, il faut accepter, nous, notre vanité, notre petitesse et décider que nous ne pouvons pas tout contrôler. Et c'est en cela aussi que réside la beauté de la vie, car c'est de l'imprévu que viennent aussi les bons moments. Quand on fait une sortie en vélo, par exemple, quand on prévoit une sortie en vélo, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas les participants, on ne sait pas le temps, on ne sait pas forcément ce qu'on va découvrir sur notre route. Mais voilà, l'imprévu fait que, eh bien, on se réjouit de ce qui se présente à nous. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. Donc en décidant d'adopter une attitude de confiance totale envers Dieu, cela nous permet tout simplement de profiter de la vie en toute liberté sur la base des expériences et non pas des espérances. Car même mes attentes qui concernent la vie sont finalement fumées. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. J'emprunterai pour finir la conclusion d'un frère sur le livre de l'Ecclésiaste, que je trouve très bien construite, vu qu'il fait la conclusion du livre en ajoutant quelque chose de ce qu'il dit lui, mais en même temps en prenant des versets de l'Ecclésiaste. Donc je vous le lis comme je l'ai reçu aussi. Après m'être ainsi appliqué de tout mon cœur à connaître la sagesse et à avoir considéré les occupations auxquelles l'homme se livre ici-bas en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai considéré l'œuvre de Dieu. Quand l'être humain accepte de ne plus être le centre de tout, alors il se met à considérer Dieu et son œuvre. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Je sais que le bonheur est pour ceux qui rêvent Dieu. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour tout homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. On découvre alors que ce que Dieu a créé sous le soleil peut apporter beaucoup de joie. Et l'Ecclésiaste invite ses lecteurs à se réjouir et à jouir de ce que Dieu a donné, à condition de le vivre en Dieu, dans la communion avec lui et selon sa volonté. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Tiens compte de ton Créateur. Augustin disait « Aime Dieu et fais ce que tu voudras. » Quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'il veut. Le vrai bonheur est dans l'obéissance à Dieu, dans l'harmonie avec lui. Son désir est que nous savourions ses dons. C'est ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Profitez de tout, sauf de cet arbre qui est l'arbre du coup du bien et de la connaissance, qui est de décider par soi-même ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Le vrai bonheur est dans l'obéissance à Dieu. Le chrétien alors, derrière les richesses matérielles, morales, culturelles, derrière les plaisirs de la vie, y voit le donateur Dieu. C'est ce que Paul dit en conclusion lui aussi dans Romains 11 au verset 33. « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Je vous demande donc, à cause de l'immense bonté de Dieu, de lui offrir votre être entier. » Et donc c'est dans cette attitude que notre vie redécouvre son vrai sens. « Je sais, dit l'Ecclésiaste, que le bonheur est pour ceux qui respectent et qui honorent Dieu. » Alors c'est mon encouragement aussi pour vous ce matin, qu'au travers du livre de l'Ecclésiaste, vous ayez aussi recadré ce qu'est l'essentiel, ce que Dieu vous appelle à faire, et que vous puissiez aussi du coup vraiment jouir des dons que Dieu donne, des choses simples que Dieu met à notre disposition pour en jouir, parce que même si la vie est vanité, Dieu nous permet de vivre ces temps et ces bonnes choses, ces difficultés aussi, et vraiment que tout puisse être vraiment reçu dans l'adoration au Seigneur, et que vraiment tout puisse être fait selon la volonté du Seigneur, et que voilà, on puisse aussi, je vous encourage à lire le livre de l'Ecclésiaste, parce que c'est 12 chapitres, ça se lit vraiment assez facilement, et c'est vraiment plein de réflexions, de bon sens, etc. Et voilà, je vous encourage vraiment à le lire, et puis peut-être aussi aller regarder les vidéos que je vous ai conseillées là sur The Bible Project, parce que ça permet aussi d'ouvrir notre esprit. Des fois, quand on lit la parole de Dieu, des fois on la lit un peu comme ça, mais vraiment pour comprendre, pour la méditer, etc., il faut la creuser, et c'est vrai que c'est là qu'on découvre vraiment tous les mystères que Dieu nous met à disposition quand voilà, on passe à côté de ces mystères si on n'étudie pas la parole de Dieu. Donc voilà mon encouragement pour vous ce matin, frères et sœurs, et je vous propose qu'on prie avant de prendre un chant et d'avoir un temps de prière tous ensemble en assemblée. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux vraiment te remercier parce que c'est vraiment aussi pour moi une bénédiction d'être ici ce matin, de pouvoir être debout, de me tenir ici devant mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, et de pouvoir partager, de pouvoir proclamer ta parole, Seigneur Jésus, de la partager avec mes frères et sœurs, qu'elle puisse être entendue, qu'elle puisse être comprise, Seigneur Jésus, et qu'elle puisse être reçue dans les cœurs, afin que, Seigneur Jésus, tu puisses voilà, trouver des cœurs qui soient disposés, Seigneur Jésus, à te recevoir et à marcher selon ton désir, Seigneur Jésus, selon la manière dont tu nous as créés. Et vraiment, Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné cette vie, que nous avons la joie de connaître cette vie, de la goûter, de goûter à ces bonheurs, Seigneur Jésus. Et même si nos corps languissent après ton retour, Seigneur Jésus, je veux vraiment passer tous les sens de ma vie à jouir de ces bienfaits que tu me donnes, Seigneur Jésus, à chercher ta volonté, à proclamer ta parole, Seigneur Jésus, et à la partager. Et je te demande encore une fois de me pardonner toutes mes erreurs, mes fautes, mes faux pas, Seigneur Jésus, les choses qui me détournent de toi ou qui ne reflètent pas, Seigneur Jésus, ta gloire. Et voilà, que chacun puisse le faire ici aussi ce matin, Seigneur Jésus, qu'il puisse étendre son cœur devant toi, reconnaître ses torts, ses difficultés, ses besoins, et recevoir de toi, Seigneur Jésus, tout cet amour que tu veux nous donner. Tout, voilà, que merci, Seigneur Jésus, simplement parce que vraiment tu prends plaisir à ce que l'on fait. et que l'on puisse avoir ça aussi en tête aujourd'hui quand on va se retrouver autour d'un repas avec notre famille, avec des amis, Seigneur Jésus, quand on va avoir un coup de téléphone ou un texto de quelqu'un, que vraiment chaque chose puisse être vécue pleinement, Seigneur Jésus, et qu'on puisse vraiment jouir de la vie comme toi tu l'entends, Seigneur Jésus. Et je te demande aussi que tu attires nos cœurs vers ta parole pour qu'on puisse vraiment comprendre tout l'essence, tout l'ensemble de ce que tu veux pour nous, pour nos vies, Seigneur Jésus. Ouais, à toi la gloire, Seigneur Jésus, à toi vraiment la reconnaissance, Seigneur Jésus. Et voilà, je plie le genou devant toi ce matin, Seigneur Jésus, et je veux reconnaître vraiment que tu es mon Seigneur, Seigneur Jésus, et que tu as changé ma vie, et que voilà, tu continues ton œuvre en moi, et Seigneur Jésus, tu peux le faire dans la vie de chacun, et tu veux le faire dans la vie de chacun, et vraiment mon désir, c'est que personne ne puisse passer à côté de ce bonheur. Amen.